Vous écoutez France Culture.
Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins tentent tous les jours de mettre de la couleur sous le ciel d'hiver en compagnie de Marianne Chassor, Jean Danilou, à qui je souhaite la bienvenue, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture bariolée des textes cette semaine Georges Clès, à la réalisation d'Arc-en-Ciel Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son Bigarré Emmanuel Morse-Duncan. À 10h50, François Nudelman, pour son journal de la philosophie, recevra Étienne Balibar pour son dernier ouvrage, Séculum, paru aux éditions Galilée. La couleur est partout, et pourtant impossible de savoir où elle se trouve. Dans le citron ou dans l'œil de celui qui s'apprête à le manger, dans la mer ou dans le regard du marin, sur le tableau ou dans la rétine du peintre. Si la couleur est hors de moi, dans les objets qui m'environnent, indépendante de ma perception, alors comment se fait-il que l'écran de mes rêves soit en couleur? Et si la couleur n'était que dans mon œil, fabrication neuronale, affaire de perception subjective? Alors comment expliquer que nous nous accordions tous à dire qu'une fraise est rouge et qu'un arc-en-ciel a cette couleur? Sans domicile fixe, sans lieu de naissance officiel, la couleur n'est peut-être qu'une illusion dont on ne revient jamais. Un leurre, la couleur, une couleuvre. Ce qui est sûr, écrit Goethe, c'est que si le taureau devient furieux si on lui présente une étoffe rouge, le philosophe, lui, dès qu'on lui parle seulement de couleur, se met en rage. Demain, Magali Besson viendra réfléchir sur les liens entre racisme et couleur de peau. Mercredi, Jacqueline Lichtenstein s'interrogera sur la dimension esthétique de la couleur ou comment celle-ci peut faire sens sans la narration du récit ou du dessin. Et jeudi, c'est Maurice Elie qui nous relatera la théorie des couleurs de Goethe et les critiques que lui adresse son interlocuteur épistolier, Arthur Schopenhauer. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Claude Romano qui vient nous retracer les enjeux philosophiques de la couleur, véritable machine à produire des concepts.
Et cet animal de David qui ne revient pas? Ah, ça, s'il s'est fait piquer, je suis frais.
Ah, non, ben voilà. Alors, ça a marché?
Ah, pour ce qui est d'avoir marché, ça a marché, ça a même très bien marché. Tu serais content de moi, mon vieux. Pourtant, au début...
Quoi, au début? Qu'est-ce qui s'est passé au début?
Ben, j'ai bien cru que j'arriverais pas à temps. Je me suis fait épingler par un flic.
Hein?
Mais t'énerve pas! C'était seulement à cause d'un feu rouge. Moi, j'étais passé à l'orange. Alors, ça n'a pas freiné, hein. Il a fallu que je montre les papiers. Enfin, j'ai dit au flic que j'étais daltonien et que j'avais confondu le rouge et l'orange. Moi, j'ai dit...
Bon, écoute, ça va, la suite. À quelle heure es-tu arrivé au chalet?
10h pile comme convenu. Je me suis amené. Alors, la fenêtre était grande ouverte. Elles sont rentrées toutes les deux.
Myriam et sa sœur.
Ben, je suppose que c'était sa sœur. Et alors là, j'ai eu un espèce de choc. Tu m'avais dit, Myriam, c'est la blonde. Tu te rappelles? Alors, automatiquement, moi, j'avais pensé, la sœur, elle est brune.
Ben non, elle est rousse.
Ah, ben voilà, c'est ça.
Quoi, ça? Quoi, ça? Mais parle dans une pipe.
Et moi, ça, c'est ça qui a fait que j'ai vu deux blondes.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Ben, je te dis que j'ai vu deux blondes. Je suis daltonien. Mais ce que j'ai raconté aux flics, c'est la vérité. Je confonds les couleurs, le vert, le rouge et l'orange. Alors, tu penses, hein, une blonde et une rousse, moi, j'ai vu deux blondes.
Oh, David.
Ah, parle pas avant de savoir. Tu voulais pas de témoin, rassure-toi, je n'en ai pas laissé. Tu piges.
David! Tu les as descendus toutes
mais
les deux.
Mais ne te fâche pas, je te dis, je te compterai le même prix. Quoi, oh. Alors, hein? Bah, allez, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la carafe d'eau? Tu bois de l'eau, toi aussi?
Bonjour Claude Romano.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. De la couleur, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions de la Transparence et qui est la retranscription d'un cours que vous aviez donné à la Sorbonne en 2007-2008 et qui permet de poser de manière très claire les enjeux philosophiques de la couleur, d'une réflexion sur la couleur. L'extrait qu'on vient d'entendre s'intitule « Hitchcock Sélection, ce n'est que votre mort, madame ». C'était le titre de ce feuilleton diffusé le 3 avril 1963 sur France Culture. On y entend peut-être deux dimensions importantes de la réflexion, de toute réflexion sur la couleur. D'un côté, le caractère naturaliste de la perception, à savoir lorsqu'on est daltonien, on se trompe, c'est-à-dire que les couleurs qui soi-disant seraient universelles ne le sont pas, en tout cas pour certaines personnes. Et puis deuxièmement, la logique qui est à l'œuvre dans la perception des couleurs. Le personnage dit que puisqu'on lui a dit que la sœur était brune, alors l'autre devait être blonde. Or, il n'en est rien. Si bien que la perception de la couleur passe toujours par le filtre d'une certaine logique à l'œuvre.
Oui, ça commence. C'est une émission qui commence de manière sanglante. Hein. Le daltonien se trompe de cible. Alors, d'ailleurs, vous remarquez que ce qu'il dit, c'est que je confonds les couleurs, il dit. C'est-à-dire que bon, on a souvent tendance à penser que les couleurs sont une affaire subjective, comme vous l'avez dit au début. Et donc, finalement, le daltonien serait un bon exemple du fait que nous ne percevons pas tous de la même manière les couleurs. Et que donc, peut-être que les couleurs seraient une affaire purement subjective. Or, ce daltonien-là n'est pas tout à fait un philosophe qui serait tombé dans ce qui est peut-être une chausse-trappe. C'est-à-dire qu'il voit d'entrée de jeu que peut-être c'est lui qui a un problème. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à détecter les couleurs. Parce qu'il laisserait plutôt penser que les couleurs, c'est une affaire tout à fait... ça appartient aux objets. Hein, c'est pas une affaire subjective. Et donc, au fond, qu'est-ce qui est l'enjeu de derrière ce genre de problème? Lorsque le daltonien échoue à percevoir certaines couleurs, on pourrait dire c'est parce que il a un appareil visuel qui est déficient. Et donc on a ici quelque chose qui relève de ses capacités à lui, pas forcément de ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà une amorce de questions, mais en fait, on aborde souvent ce problème d'une façon qui est, on pourrait dire, surdéterminée par la philosophie. Parce que dans l'histoire de la philosophie, s'est imposé, notamment à partir de Descartes et plus encore à partir de Locke, une conception qui a fait une différence très forte, qui établit une différence très forte entre différents types de qualités, ce que Locke appelait les qualités premières et les qualités secondes. Donc les qualités premières, ce sont des propriétés intrinsèques de l'objet. Locke nous dit, il y a la figure, il y a l'étendue, le mouvement, la solidité. Donc voilà des propriétés qui appartiennent à l'objet, abstraction faite de sa perception par un sujet qui serait pourvu de sens. Et puis d'un autre côté, Locke nous dit, il y a des qualités secondes qui sont purement subjectives, c'est-à-dire qui dépendent de nos capacités de perception et qui sont des sensations dans l'âme, qui sont des idées, dit Locke.
Une bonne façon de comprendre cette distinction entre les qualités premières et les qualités secondes, c'est penser à l'exemple du morceau de cire de Descartes, par exemple. Même si lorsqu'il prend cet exemple, il est dans une démarche bien différente de celle de Locke, mais on a la distinction entre ce qu'il reste du morceau de cire une fois que celui-ci a changé de couleur, de texture et de forme, qui sont du coup les idées premières, à la substance première, les qualités premières, et les qualités sensibles qui, elles, changent au gré de la chaleur, du temps, même du lieu où il se trouve. Et donc la couleur ferait partie de cette qualité sensible, ce qui rend difficile, voire impossible, le fait même de penser la couleur en elle-même, puisqu'elle est changeante.
Alors, effectivement, ça c'est un... Bon, le morceau de cire, c'est effectivement la base à partir de laquelle Locke réfléchit. Et l'idée de Locke, c'est que, puisque c'est Locke qui a vraiment, on pourrait dire, donné une sorte d'épaisseur ontologique à cette différence qui est présente chez Descartes, l'idée de Locke, c'est que il y a plusieurs arguments qui permettent, à son avis, d'inférer que les couleurs sont purement subjectives. Le premier argument, c'est effectivement la modification des conditions d'observation. C'est-à-dire, vous éclairez différemment une surface et la couleur change légèrement. Ou bien, exemple plus spectaculaire, eh bien vous supprimez toute couleur, vous supprimez toute lumière, donc les conditions changent de manière dramatique. De nuit, Eh bien, les couleurs, nous dit Locke, disparaissent. C'est ce qui prouve que les couleurs sont purement des idées en nous, donc que ce sont des qualités secondes.
Alors, vous dites idée. Quelle différence entre la perception et l'idée, alors ?
Simplement, Locke parle dans ce vocabulaire des idées, c'est-à-dire pour lui, les idées, ce sont, disons, pour faire vite, des sensations. C'est un empiriste, il pense que toute connaissance commence avec des sensations et que c'est donc la base de toute connaissance. Et ces idées en nous, que sont les couleurs, Locke pense pouvoir établir, donc qu'elles sont seulement des qualités secondes, à partir de cet argument des conditions d'observation qui changent. Alors, par exemple, il nous dit, le porphyre, qui est une roche volcanique, vous le savez, de couleur rouge, le porphyre n'est pas rouge la nuit. Et donc, ça prouve bien que si cette couleur disparaît, c'est qu'elle n'est pas une propriété intrinsèque du corps.
Considérons la couleur rouge et blanche dans le porphyre. Faites que la lumière ne donne pas dessus. Sa couleur s'évanouit. Et le porphyre ne produit plus de telles idées en nous. La lumière revient-elle ? Le porphyre excite encore en nous l'idée de ses couleurs. Peut-on se figurer qu'il soit arrivé aucune altération réelle dans le porphyre par la présence ou l'absence de la lumière ? Et que ces idées de blanc et de rouge soient réellement dans le porphyre lorsqu'il est exposé à la lumière, puisqu'il est évident qu'il n'a aucune couleur dans les ténèbres. À la vérité, il y a, de jour et de nuit, telle configuration de parties qu'il faut pour que les rayons de lumière réfléchis de quelques parties de ce corps dur produisent en nous l'idée du rouge. Et qu'étant réfléchis de quelques autres parties, ils nous donnent l'idée du blanc. Cependant, il n'y a en aucun temps ni blancheur ni rougeur dans le porphyre, mais seulement un arrangement de parties propres à produire ces sensations dans notre âme. Autre expérience qui confirme visiblement que les secondes qualités ne sont point dans les objets mêmes qui en produisent les idées en nous. Prenez une amande et la pilez dans un mortier. Sa couleur nette et blanche sera aussitôt changée en une couleur plus chargée, plus obscure. Et le goût de douceur qu'elle avait sera changé en un goût fade et huileux. Or, en froissant un corps avec le pilon, quel autre changement réel peut-on y produire que celui de la contexture de ses parties ?
La couleur est donc une qualité seconde, Claude Romano, c'est-à-dire une qualité propre à un objet qui peut changer, qui se meut selon les circonstances, selon la lumière que l'on jette sur l'objet ou non. Et pourtant, s'il en était ainsi, alors ce serait simple, on saurait ce qu'est la couleur, où est-ce qu'elle se situe. Il serait simplement difficile de pouvoir la saisir en elle-même puisqu'elle est changeante, mais face à la couleur, on pourrait l'identifier. Or, ce que ce texte de Locke nous dit, le texte tiré de l'essai philosophique concernant l'entendement humain de 1690, interprété ici par Georges Claes, c'est l'idée selon laquelle il y a une certaine disposition qui permet la perception de la couleur d'un objet par l'œil humain. Et cette idée de disposition, une qualité dispositionnelle, disons, permet de dépasser l'opposition entre d'un côté une couleur purement subjective et de l'autre une couleur objective. Il y a quelque chose, nous dit Locke, un arrangement de parties propre à produire ces sensations, c'est-à-dire ces couleurs, dans notre âme. Est-ce que lorsqu'il dit ceci, il résout ce problème de la subjectivité ou de l'objectivité, puisqu'il situe l'origine de la couleur entre les deux, dans la rencontre entre un regard et un objet ?
Pas vraiment. Enfin, si vous voulez, alors pour répondre à votre question, d'abord, est-ce qu'il résout le problème ? C'est pas sûr, parce que si vous prenez les deux arguments, parce qu'au fond, ce texte donne deux arguments. Il y a l'argument du fait que les couleurs changent, et donc qu'à ce moment-là, selon les conditions d'observation, mais vous avez parlé tout à l'heure du morceau de cire. On voit bien que pour le morceau de cire que ses propriétés, par exemple sa taille, se modifient. Que des propriétés que Locke aurait tendance à considérer comme des qualités premières se modifient aussi. Ils changent de forme. Alors, ils changent de figure, comme dirait Locke. Donc, le fait qu'une propriété change ne veut pas dire que cette propriété ne soit pas intrinsèque à l'objet. C'est pas un argument tout à fait convaincant. Ensuite, l'argument du porphyre, la nuit, finalement, est on pourrait dire encore moins convaincant. Parce que c'est une... Au fond, c'est un bel exemple de ce qu'on appelle en philosophie une pétition de principe, c'est-à-dire un argument qui présuppose ce qu'il doit démontrer. Puisque, au fond, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la nuit, je ne peux plus voir le rouge du porphyre. Mais c'est un peu comme notre daltonienne tout à l'heure. Il y a deux manières d'interpréter, au fond, cette expérience. Ou bien vous dites, je ne peux plus voir le porphyre, la nuit comme rouge, parce que le porphyre n'est plus rouge. Ça, c'est ce que dit Locke. Mais ça, ça présuppose effectivement que le rouge, ce ne soit pas une propriété du porphyre, mais bien une propriété de ma perception du porphyre, une idée en moi. Mais à ce moment-là, vous ne l'avez pas démontré. C'est une façon de lire l'expérience. Et puis, il y a une deuxième façon qui consiste à dire, bah, la nuit, une des conditions de l'apparition de la couleur disparaît, c'est-à-dire la lumière, mais ce n'est pas pour autant que la couleur disparaît. C'est simplement que je suis dans la position où je ne peux plus détecter la couleur, comme tout à l'heure, le daltonien ne pouvait pas détecter la différence entre la blonde et la rousse. Donc, cette expérience ne permet rien de conclure, en vérité, sur l'objectivité ou la subjectivité de la couleur. Donc, si vous voulez, on est ici, avec Locke, quelque chose qui va... dont finalement l'aspect intéressant philosophiquement, c'est aussi à quel point ce que Locke a dit de ces questions a fasciné les esprits, hein, puisque c'est devenu quelque chose finalement d'extrêmement banal. Quand vous lisez des textes consacrés à la couleur, y compris des textes de scientifiques, très souvent, c'est une évidence pour ces scientifiques que la couleur, par exemple, diront-ils, elle est fabriquée par le cerveau. On peut lire ça très, très...
Et ça, est-ce qu'on peut le prouver, par exemple? Si là, vous vous référez à des scientifiques, il y a donc des expériences, des preuves à l'appui. Est-ce que c'est possible de prouver que la couleur vient du cerveau?
Ben, c'est effectivement... D'abord, il faut se demander qu'est-ce qui peut amener, effectivement, à soutenir ce genre de théorie. Bon. Ce qui peut amener à la soutenir, c'est qu'une définition purement objective de la couleur est difficile. C'est-à-dire que si vous prenez, effectivement, si vous partez des expériences de Newton sur la décomposition de la lumière blanche par le prisme, et donc du fait que, comme il le dit, les rayons qui diffèrent en couleur diffèrent aussi en réfrangibilité. C'est-à-dire, la réfrangibilité, c'est la disposition à être détournée de la direction, de leur direction, ces rayons, quand ils passent d'un milieu à un autre. Et donc, avec l'exemple du prisme, vous voyez que les différents rayons ont des couleurs différentes. Bon. Donc, on s'aperçoit que, d'abord, avec Newton, que la couleur est évidemment liée à la perception de la lumière. Et depuis, bien sûr, la physique a fait beaucoup de progrès. On dirait, dans une espèce de physique naïve, hein, il ne s'agit pas de dire que c'est une explication physique profonde, mais que ce qui fait, par exemple, que votre robe jaune est jaune, c'est qu'elle absorbe sélectivement toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique qui sont autres que le jaune, et qu'elle réfléchit, hein, les longueurs d'onde qui correspondent à la perception du jaune. Donc on pourrait dire, voilà, ça c'est la définition physique de la couleur. Or, le problème avec cette définition physique, c'est qu'elle a beaucoup de mal à rendre compte de notre perception de la couleur. Pourquoi? Reprenons l'exemple de votre robe jaune. Votre robe jaune, donc, elle est jaune. Mais elle pourrait aussi être jaune-orangé. C'est-à-dire qu'elle pourrait, bien sûr, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'elle réfléchisse plusieurs longueurs d'onde, hein, celle qui correspond au jaune et aussi celle un peu qui correspond au rouge. Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, est-ce que votre robe pourrait être jaune-bleu, jaune-bleuté? Eh bien, justement, non. Or, vous voyez que là, il y a un problème très sérieux pour une théorie physique de la couleur, puisque le spectre électromagnétique, c'est un continuum. Donc, il n'y a pas d'impossibilité physique à ce qu'un objet réfléchisse à la fois la longueur d'onde du jaune et la longueur d'onde du bleu. Mais il y a une impossibilité, disons, phénoménologique. C'est-à-dire que rien dans notre monde des couleurs est jaune-bleu. Et là, ça pose un problème sérieux. C'est-à-dire que notre perception de la couleur, elle est structurée d'une certaine manière qui ne correspond à rien dans la physique de la lumière. On pourrait prendre d'autres exemples. Les couleurs complémentaires. Vous voyez que les couleurs complémentaires, ça reflète une structuration de la couleur qui, là encore, n'a pas d'équivalent dans quelque chose comme un spectre lumineux qui est un continuum.
Mais là, on en revient au même problème. Est-ce que cette impossibilité pour une couleur d'être jaune-bleu vient d'une impossibilité extérieure à nous, qui serait proprement physique, voire biologique, ou est-ce que c'est notre œil qui ne peut pas percevoir cet assemblage de couleurs ?
Alors, disons que dans la physique de la lumière, il n'y a rien pour l'expliquer. Donc effectivement, à ce moment-là, on est tout à fait tenté d'aller chercher dans la neurophysiologie, dans le cerveau, et de dire, d'aller jusqu'à dire que la couleur, effectivement, est une fabrication du cerveau. Parce que certaines propriétés de notre perception de la couleur ne correspondent à rien dans la physique de la lumière. Donc, je vais vous donner l'exemple des couleurs opposées, parce que jaune, bleu, ça fait partie de ce qu'on appelle les couleurs opposées. Hein, de même que le vert et le rouge sont des couleurs opposées, c'est-à-dire que rien ne peut être rouge-vert. Bon, il y a l'exemple des couleurs complémentaires. Il y a aussi tout ce qui, dans la perception de la couleur, relève de ce qu'on appelle les phénomènes de constance. Une feuille blanche dans la pénombre et une feuille blanche dans le soleil du plein midi nous apparaissent toutes les deux blanches. Or, la quantité de lumière blanche qu'elles reflètent est spectaculairement différente. Donc elles devraient nous apparaître grises dans un cas et blanches dans un autre, si notre perception était simplement le reflet de la composition spectrale de la lumière. Alors, évidemment, on a là un sérieux problème qui fait que certains philosophes vont effectivement, sont pour dire post-lockiens, et disent que la couleur n'est que quelque chose de subjectif. Alors, bien sûr, la question, c'est à ce moment-là, quelle est la difficulté ? Puisqu'après tout, on pourrait dire, ben voilà, les couleurs sont purement quelque chose de subjectif, ça ne pose pas de problème. Prenons un autre exemple encore. C'est celui de certains appareils qui permettent de sélectionner des longueurs d'onde. Et donc, qui permettent à des sujets de dire à quel moment ils voient un bleu pur. Et aussi de superposer des rayons lumineux pour obtenir le blanc. Et là, si on regarde comment ces différents sujets règlent leur appareil, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne le règlent pas de la même manière exactement. Et donc, il y a aussi là des fluctuations dans la perception que chacun a des couleurs pures. Alors, tout ça pourrait amener, et certains philosophes le disent, Hardin, par exemple, un philosophe américain, dit que la couleur est purement subjective. Ça soulève quand même des questions. C'est-à-dire que on peut d'abord se demander si la question est correctement posée en ces termes. C'est-à-dire, en fait, ces auteurs présupposent que la perception des couleurs a pour but de détecter des invariants physiques. Au fond, que nous serions tous, en tant que sujets de perception, des apprentis physiciens qui devraient isoler des caractéristiques physiques du milieu qui les environne. Or, on pourrait soutenir que la perception des couleurs ne vise pas du tout à cela, et que, elle a une autre finalité, qui est de détecter non pas des invariants physiques, mais des invariants de notre monde environnant, c'est-à-dire des invariants que certains auteurs appellent des invariants écologiques, c'est-à-dire qui concernent les relations d'un animal à son environnement. Et à ce moment-là, on s'apercevrait par exemple que les couleurs opposées dont je parlais à l'instant répondent effectivement à des intérêts adaptatifs. Par exemple, l'opposition du vert et du rouge, que beaucoup de mammifères n'ont pas, par exemple, une vache ne voit pas la différence entre le vert et le rouge, sont apparus dans l'évolution du vivant chez certains mammifères qui étaient frugivores, chez les singes, par exemple, et qui donc devaient détecter un fruit qui souvent est de couleur orangée, rouge, contre des plantes qui sont, elles, de couleur verte.
C'est-à-dire que la distinction entre le rouge et le vert permet à certains mammifères de repérer des baies dans un feuillage, par exemple, et donc
exactement.
De se nourrir et donc de survivre.
Donc, on a là, effectivement, une approche qui est différente, puisque cette approche nous dit, en substance, que la perception des couleurs ne doit pas être conçue comme la détection d'un variant physique, mais bel et bien la détection d'invariants qui ont un sens adaptatif pour l'animal et qui le concerne dans son milieu.
Et qui surtout concerne le milieu biologique ici. On est passé de la physique à la physiologie, à maintenant la biologie.
Bien sûr. Et donc à ce moment-là, on pourrait dire, on pourrait soutenir l'idée que, en vérité, les couleurs ne sont ni dans l'objet du point de vue physique, ni simplement des représentations mentales, mais qu'elles sont des propriétés relationnelles de l'animal qui concernent donc ce niveau écologique, c'est-à-dire qui concernent la relation que l'animal a à un environnement vital. Et donc, elles sont au fond des structures de son environnement vital lui-même.
Et c'est par cette réflexion, le fait de cerner, de situer la couleur dans cette relation, disons, d'ordre pratique entre l'homme et son milieu. Vous avez parlé de réflexion écologique, c'est bien ce que ce terme implique. On n'est pas ici dans une simple réflexion théorique, mais bien dans l'agir. Il s'agit de survivre en trouvant des baies, par exemple, dans le cas de la distinction des couleurs entre le rouge et le vert. C'est ce qui permet peut-être de dépasser du coup l'opposition entre la couleur subjective et la couleur objective, puisque si on dit que la couleur se situe dans le domaine de l'agir, et non plus dans le domaine de la théorie, alors peu importe qu'elle soit objective et subjective, elle est tout simplement nécessaire, la perception de la couleur est nécessaire à la survie.
Oui, disons que ce sont des propriétés qui ne sont ni des propriétés objectives au sens de physique, ni des propriétés purement subjectives au sens où on se placerait ici dans un esprit qui n'aurait pas pour autre objet que de connaître le monde, mais que ce sont des propriétés relationnelles de niveau écologique, on pourrait dire. C'est-à-dire des propriétés qui concernent la manière dont un vivant se repère dans un environnement, c'est-à-dire au fond ce qui permet pour ce vivant d'élaborer des catégories de classification qui lui permettent simplement d'identifier différents types d'objets qui peuvent le concerner dans son environnement.
Les conventions qui régissent les noms donnés aux couleurs peuvent expliquer pourquoi nous ne combinons pas des noms de teintes, mais elles n'expliquent pas pourquoi nous associons certains noms de teintes, par exemple bleu-rougeâtre ou rouge-bleu, et pas d'autres, tels jaune-bleuâtre ou bleu-jaune. Ce fait semble refléter une espèce d'incompatibilité qui réside en dehors du langage. L'incompatibilité semble avoir des racines profondes, car non seulement nous échouons à expérimenter des verts rougeâtres, mais nous semblons incapables de nous imaginer, dans notre fort intérieur, ce à quoi cela pourrait ressembler d'expérimenter des verts rougeâtres. Rien, semble-t-il, ne pourrait être vert rougeâtre.
Mon monde, c'est-à-dire mon enfance, a été jonché de couleurs. Je me rappelle toutes les couleurs que je retrouve, parfois de façon plus intense ou moins intense, ça dépend des moments. Par exemple, cette nuit, je me suis réveillé et je pensais à un événement dans mon enfance. Et j'ai retrouvé la couleur rouge par une telle violence que j'étais étonné. Comment est-ce possible? Ça fait plus que 30 ans que je ne l'ai pas vue, cette couleur. Et elle a réapparu comme ça. C'est toujours comme ça dans ma vie. Il faut surmonter la cruauté du moment vécu direct, la cruauté aussi d'une perception trop envahissante. Il faut toujours se situer ailleurs pour trouver autre chose, autre dimension à la vie et aussi aux choses. Alors on trouve, c'est un peu le domaine des rêves comme ça avec les yeux ouverts et j'essaie de faire un peu ça, c'est pour ça que je dis que je suis un peu Don Quichotte, n'est-ce pas, qui ne voit que de dulciner, ou qui n'essaye que de voir de dulciner.
Si je me cache toujours derrière ces lunettes noires, c'est pour voir la vie en couleur, la vie en couleur, avec les yeux de ma mémoire. regarde souvent tout seul de bas en bas. C'est pour voir la nuit en couleur, la nuit en couleur. Mais je te vois dans chaque miroir. Tu m'as dit.
De la voix du photographe aveugle Evgen Bafkar à celle de Christophe, Noir est ta couleur. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h30. Nous parlons de couleurs toute cette semaine. Et aujourd'hui, pour ce premier jour consacré à la couleur, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Claude Romano, auteur notamment d'un essai intitulé « De la couleur » paru aux éditions de La Transparence, mais également plus récemment « Au cœur de la raison, la phénoménologie » qu'on trouve aux éditions Gallimard.
Si je relis parfois les pages de notre histoire, c'est pour voir la fin en couleur, la fin en couleur.
Il est émouvant d'entendre le photographe Evgen Bafkar, Claude Romano, nous faire part de cette expérience qui est ce souvenir d'une couleur qu'il n'a pas vue depuis 30 ans, puisqu'il est devenu aveugle, il n'est pas aveugle de naissance. Qu'en est-il du coup de ce statut de la couleur lorsqu'elle n'est que dans la mémoire? Juste avant, j'ai lu un texte de Hardin qui disait que nous, on ne pouvait même pas s'imaginer un rouge verdâtre ou un vert rougeâtre, oui. Je ne sais plus comment il le disait, ou un jaune verdâtre, ça marche dans... Ben non, justement. Enfin, ça marche dans les couleurs qui ne sont pas associables entre elles.
Opposés.
Voilà.
Oui,
est-ce que ça veut dire que l'imagination... Donc, ça semble aller du côté de la thèse d'un subjectivisme. L'imagination elle-même ne peut pas produire certains assemblages et la mémoire ne peut nous fournir que des couleurs que nous avons vues. C'est comme si nous étions toujours tributaires de l'expérience.
Ah, c'est compliqué parce que, bon, vous voyez, vous dites, ça ne peut nous fournir que des couleurs qu'on a déjà vues. Dans une certaine mesure, oui, mais bon, là, on a un cas, avec ce photographe, on a un cas effectivement de souvenir. Le rouge lui revient en mémoire. Bon. Mais en fait, alors, il y a un philosophe qui justement s'est penché sur cette question exactement, c'est Hume, hein, puisque Hume prend l'exemple, et pourtant Hume est un empiriste, donc il devrait dire justement qu'on ne peut connaître que des couleurs qu'on a déjà perçues. Or, Hume nous dit, supposons que quelqu'un n'ait jamais perçu une certaine nuance de bleu et que on aligne devant lui des échantillons avec toutes sortes de nuances de bleu, sauf cette nuance qui manque. Et qu'on lui demande de dire quelle est cette nuance ou de retrouver ou d'imaginer quelle est la nuance qui correspond à celle qui manque et qu'il n'a jamais perçue par ailleurs, eh bien Hume répond, il pourra le faire. Donc vous voyez que même le philosophe empiriste se dit, et ça introduit effectivement une idée d'une logique des couleurs, c'est-à-dire il y a là des rapports entre les couleurs qui ne sont pas des rapports purement empiriques, qui ne viennent pas seulement de notre expérience, mais qui sont des rapports nécessaires, un peu comme des rapports qu'il pourrait y avoir en géométrie, si vous voulez. Hein, d'ailleurs, certains auteurs auront l'idée, Oswald fera une représentation sous la forme d'un octaèdre de toutes les couleurs pour montrer justement tout leur rapport complexe. Et donc, à ce moment-là, ça laisse plutôt entendre qu'il y a là des rapports entre les couleurs qui sont en quelque sorte a priori. Après, la question...
A priori, c'est-à-dire avant toute forme de langage, une logique qui appartiendrait aux couleurs en elles-mêmes et qui ne serait pas plaquée par le discours humain sur cette réalité.
C'est ça. C'est-à-dire que, bien entendu, les couleurs dépendent probablement pour une certaine part de nos organes des sens. Certains oiseaux perçoivent l'infrarouge, les abeilles perçoivent une partie de l'ultraviolet. Donc, il est évident que nos capacités perceptives entrent ici en jeu. Mais sur la base de ces capacités perceptives, il y a peut-être des rapports entre les couleurs qui ne relèvent pas directement de l'expérience, mais dont on pourrait dire d'une certaine façon qu'elles sont là avant toute expérience et qui font qu'il y a une logique colorée, comme disait Cézanne. Il disait que le peintre doit se mettre à l'écoute de cette logique colorée et pas seulement regarder. D'ailleurs, bon, c'est une expérience que même un très mauvais peintre, même le peintre du dimanche, sait bien que pour peindre un tableau, Il ne suffit pas de reporter sur la toile ce qu'on appelle le ton local, c'est-à-dire la façon dont chaque objet est perçu isolément. Mais si on veut que ça ressemble à quelque chose, il faut justement faire entrer en jeu cette logique des couleurs.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, une logique des couleurs? Et surtout, comment peut-on en rendre compte dès lors qu'elle appartient aux couleurs et non pas à nous-mêmes? Comment pouvons-nous avoir accès à une logique qui nous échappe?
Alors, cette logique, le peintre la connaît, enfin, nous la connaissons tous, puisqu'elle est d'une certaine façon a priori. Nous la connaissons tous sans forcément nous être penchés sur la question. Par exemple, nous ne pouvons pas imaginer, pour reprendre l'exemple du rouge verdâtre, nous ne pouvons pas imaginer un rouge verdâtre. Nous pouvons imaginer un rouge qui tend vers le pourpre, donc vers le bleu, un rouge qui tend vers le jaune, donc de l'oranger, mais nous ne pouvons pas nous représenter cela. Prenons un autre exemple, ce qu'on appelle la différence entre les couleurs unitaires et binaires. C'est très simple, il y a les couleurs unitaires sont celles qui ont une teinte pure, c'est-à-dire il y a un bleu qui ne tend ni vers le rouge, donc vers le violet, ni vers le jaune, donc ni vers le vert, pardon, ni vers le rouge, ni vers le vert. Ce sont une couleur pure. En revanche, il n'y a pas d'orange qui ne tende ni vers le jaune, ni vers le rouge. Donc c'est une couleur qui, en fait, on pourrait dire, est toujours intermédiaire entre deux autres. Ben ça aussi, ça appartient, on pourrait dire, à la logique des couleurs. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui crée une situation d'impossibilité. Si vous voulez, on ne peut pas imaginer un orange qui ne tendrait vers aucune de ces deux autres couleurs. Donc il y a des nécessités, il y a des impossibilités dans le champ de la couleur. Et là encore, évidemment, c'est quelque chose qui rend problématique un pur objectivisme, parce que du point de vue, encore une fois, du spectre électromagnétique de la couleur, de la lumière, il n'y a rien qui corresponde à ces impossibilités. Alors, effectivement, tout le problème, d'une certaine façon, c'est de savoir quel est le statut de ces possibilités, de ces impossibilités. Au fond, de quelle nature sont-elles? Et ça, alors là, il n'y a évidemment pas accord entre les philosophes sur ce point. Vous vous en doutez.
Pourrais-je décrire la finalité des conventions grammaticales en disant que je dois les adopter parce que nous disons les couleurs ont une certaine propriété? Dans ce cas, ces conventions seraient superflues, puisqu'alors il me serait possible de dire ce que précisément les conventions excluent. A l'inverse, si les conventions étaient nécessaires, donc si certaines combinaisons entre les mots devaient être exclues comme ne faisant pas sens, c'est précisément pour cela que je ne saurais attribuer aux couleurs telle propriété dont la nécessité ressort des conventions, car il serait pensable que les couleurs n'aient pas ces qualités et cela ne pourrait s'exprimer que contrairement aux conventions. Que ce soit un non-sens de dire d'une couleur qu'elle est une tierce plus haute qu'une autre, voilà qui ne peut pas être prouvé. Je puis seulement dire qui utilise ces mots avec la signification que je leur donne ne peut pas associer de sens à cette combinaison. Si elle a un sens pour lui, c'est qu'il comprend autre chose que moi par ces mots. C'est le philosophe Wittgenstein qui, dans ses remarques philosophiques, fait la distinction entre une grammaire, disons, philosophique et une grammaire ordinaire, comme pour dégager un régime de fonctionnement, un régime logique, qui ne serait pas tributaire des choses elles-mêmes, mais de la logique, disons, de la pensée humaine. Et appliquant cela aux couleurs, il permet de distinguer, d'insister sur l'autonomie de la grammaire des couleurs par rapport à l'existence. Ce qui lui permet, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, Claude Romano, de montrer de quelle nature est cette impossibilité de percevoir certaines couleurs. C'est, dit-il, un non-sens.
Oui. Alors, effectivement, c'est une des façons de répondre au problème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la logique des couleurs. La réponse de Wittgenstein consiste à dire que l'impossibilité d'employer comme faisant sens l'expression rouge-verdâtre, par exemple, relève de ce qu'il appelle la grammaire. La grammaire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, c'est les règles qui sous-tendent l'usage de nos mots et qui font que certaines combinaisons de mots sont dépourvues de sens. Donc la grammaire, c'est ce qui fait le départ dans le langage entre des combinaisons de signes qui sont sensées et des combinaisons de signes qui sont absurdes, qui sont des non-sens. Alors, donc, ce avec quoi se débat le second Wittgenstein, parce que la position de Wittgenstein a évolué au cours du temps. Dans le Tractatus, il pensait que certaines propositions sur les couleurs étaient plutôt des contradictions logiques. Par la suite, il ne pense plus cela, donc il pense que ce sont des non-sens grammaticaux. Et donc, il pense qu'effectivement, ces impossibilités relèvent de ce qu'il appelle la grammaire. Alors, si vous voulez, on a là, effectivement, le texte que vous avez lu, assez complexe, nous dit qu'il s'agit de conventions. Ce sont des conventions. Et donc, ces conventions, pense Wittgenstein, ne correspondent à rien du point de vue à la fois de la physique et de la psychologie. Ça ne correspond à aucun fait. Ce sont uniquement des règles arbitraire. Et donc, alors, comment est-ce qu'il établit cela? Il l'établit en disant que si il en allait autrement, c'est-à-dire si je ne pouvais pas dire un rouge verdâtre parce que des propriétés des choses m'empêchaient de le dire, ça impliquerait que ce serait donc une proposition empirique et pas une proposition grammaticale que de dire qu'il n'y a rien de rouge verdâtre. Mais si c'était une proposition empirique, la négation devrait être possible. Donc il devrait être possible de dire il y a quelque chose de rouge verdâtre. Or, ce n'est pas possible parce que ça ne fait pas sens, dit Wittgenstein, et donc ça implique que nos conventions grammaticales ne sont fondées sur rien, c'est-à-dire rien qui soit des propriétés des objets eux-mêmes, tels qu'ils nous apparaissent. Et donc c'est pour ça que Wittgenstein dit il n'y a pas de phénoménologie, il y a uniquement des problèmes phénoménologiques. C'est-à-dire que effectivement les problèmes phénoménologiques doivent être résolus ou plutôt traités par la grammaire.
Phénoménologique, c'est-à-dire des choses telles qu'elles nous apparaissent en tant que phénomènes.
C'est ça, il pense à Goethe en fait, il pense à la théorie des couleurs de Goethe, puisque c'est à l'occasion de cette théorie des couleurs que Goethe a introduit le terme phénoménologie.
Voilà, enfin, on en
c'est
parlera
Lambert
jeudi prochain.
Qui l'a introduit d'abord, mais enfin peu importe. Disons que Goethe parle d'une phénoménologie des couleurs, et pour Wittgenstein, au fond, cette phénoménologie, on pourrait dire, elle se résout totalement en remarques grammaticales, donc en remarques sur l'usage de nos mots. Donc ce qu'il y a d'a priori dans tout ça, dans cette logique des couleurs, c'est que ce sont des règles grammaticales. En tout cas, c'est ce que pense Wittgenstein. Alors, ça n'a rien d'absolument évident que Wittgenstein ait raison.
Non, mais surtout, que reste-t-il de la couleur dès lors qu'on ne la pense qu'à travers des règles? La couleur n'est plus colorée, il n'y a plus toute la dimension esthétique, disons, d'une couleur.
Oh, pour Wittgenstein, ça n'a pas d'incidence sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est plutôt une question, là, purement métaphysique, on pourrait dire. C'est vraiment la question de savoir sur quoi fonder cette logique, sur quel genre d'a priori on peut la fonder. Mais prenons un exemple pour ne pas être trop complexe. Wittgenstein nous dit, par exemple, qu'il n'est pas possible de dire « lumière brune ». C'est un exemple qu'il prend dans les remarques sur les couleurs. Il dit essayez d'imaginer ce que ce serait des feux de la circulation qui seraient bruns. Enfin, où il y aurait un des feux qui serait de couleur brune. On ne peut pas l'imaginer. Et là, Wittgenstein dit, mais en fait, ce n'est pas parce que rien ne pourrait être une lumière brune dans la nature, c'est parce qu'on ne peut pas employer comme ça les concepts de lumière et de brun. Donc pour lui, au fond, c'est une affaire purement grammaticale. Alors on pourrait tout à fait discuter, parce que on pourrait dire aussi, mais pas du tout, ça tient au fait que le brun est une couleur de contraste. C'est-à-dire, ça tient à un aspect phénoménologique du brun. Une couleur de contraste, c'est une couleur qui n'apparaît que dans un environnement plus sombre. On peut faire une expérience simple, c'est que en vision monoculaire, si vous regardez avec un seul œil, donc à travers un tube qui est garni de velours noir, donc qui obscurcit, une couleur marron, au bout d'un certain temps, ça devient du jaune. C'est-à-dire qu'en fait, le marron, ce n'est rien que du jaune saturé et sombre. Mais c'est une couleur qui n'apparaît que dans une certaine situation de contraste avec d'autres couleurs. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'une source lumineuse apparaîtra toujours plus claire que son entourage, si justement c'est une source lumineuse. Et le brun, donc, n'apparaît que par contraste. On peut prendre un autre exemple. Si vous regardez une lumière à travers un verre de couleur rouge, elle vous apparaîtra rougeâtre. Mais si vous regardez cette lumière à travers un verre teinté de brun, un verre fumé, elle vous apparaîtra jaune. Tout simplement pour cette raison qui est, on pourrait dire, phénoménologique. Donc je pense que certains des exemples de Wittgenstein, en tout cas, suscitent la réflexion parce qu'il n'est pas évident que ce genre de nécessité dont il parle soit uniquement des nécessités liées à notre emploi des mots, à notre langage, à notre grammaire, comme il dit, mais qu'elles ne soient pas aussi des nécessités qui sont liées aux phénomènes eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, il y aurait peut-être une phénoménologie et pas seulement des problèmes phénoménologiques.
A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfes d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelles. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Il nous reste à peine une minute avant la fin de l'émission, Claude Romano, mais il aurait été dommage de ne pas donner à entendre ce poème magnifiquement interprété par Georges Clès, les fameuses voyelles de Rimbaud. On est ici plutôt dans une orthographe des couleurs, mais surtout ce qu'on y entend, c'est que ce soit grammaire ou orthographe, cette forme de logique à l'œuvre ouvre vers une dimension, disons, non seulement esthétique, mais également poétique, dont on n'a pas parlé, qui est propre à la couleur.
Bien sûr, et là, on est aussi dans le problème de la synesthésie, c'est-à-dire de la manière dont nos sens communiquent les uns avec les autres. Il n'y a pas des sens séparés, il y a une communication entre nos sens. Donc ce que nous entendons, les voyelles, ont aussi une couleur. Matisse disait « je sens par la couleur ». On voit bien que la couleur, ce n'est pas seulement un objet de perception. La couleur, c'est au fond une des dimensions de notre être au monde, on pourrait dire. Et qui fait que, justement, entendre un son et voir une couleur, c'est tout à fait lié. Il y a des couleurs qui sont plutôt vers l'aigu, d'autres qui sont graves, un peu comme des sons sont aigus ou graves. Il y a des couleurs acides, on le dit en français. Donc nos sens communiquent et de ce point de vue, au fond, c'est là-dessus que, bien sûr, que Rimbaud déploie, à partir de là, que Rimbaud déploie son génie poétique.
Blanc, 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 bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu, bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux, bleu, bleu, comme un ciel immense, et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le
le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu.
Bleu, blanc, blond, c'est Marcel Amon. Merci beaucoup Claude Romano d'être venu nous parler de couleurs aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à deux de vos ouvrages notamment. De la couleur, qui est un cours que vous aviez dispensé à la Sorbonne en 2007-2008, qu'on trouve aux éditions de la Transparence, mais également au cœur de la raison, la phénoménologie, qu'on trouve aux éditions Gallimard. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours et également en 2013, le journal de la philosophie avec vous François Nodelman. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Les vieilles notions politiques et philosophiques ont parfois besoin d'être actualisées. Étienne Balibar, qui n'a cessé de travailler la notion de citoyenneté, propose une réflexion sur le cosmopolitisme et le sécularisme dans « Seculum, culture, religion, idéologie » paru chez Galilée. Étienne Balibar, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest, vous enseignez en plusieurs universités américaines.
Je suis vieux, oui.
Mais vous avez une nouvelle jeunesse à la Columbia en ce moment.
Allez, allez, allez.
Bon, alors, on va parler de ce livre et de la notion de cosmopolitisme que vous reprenez à nouveau frais. Faut-il la penser différemment avec ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation?
Ah bah oui, oui, oui. Je pense qu'il faut la penser de façon complètement différente parce que, bon, la notion de cosmopolitisme a une... Bon, d'abord, reprenons un peu avant. Pour moi, c'est une notion très importante. Il y a un certain nombre d'autres mots équivalents ou partiellement équivalents. Bon, aujourd'hui, certains de nos collègues et de nos interlocuteurs qui réfléchit sur ce qu'on appelle la provincialisation de l'Europe avec Dipesh Chakrabarty, ou parle plus volontiers de planétarisme. Ça n'a pas tout à fait les mêmes connotations. Moi, je viens d'une tradition politique et philosophique dans laquelle la notion d'internationalisme avait évidemment une importance centrale. Je ne dis pas que tous ces termes soient équivalents, bien sûr. Ils ont des voisinages et ils désignent des dimensions, ils mettent des accents différents. Bon, le cosmopolitisme, c'est une très vieille notion. Comme chacun sait, les origines elles-mêmes divisées sont dans le cynisme et le stoïcisme de l'Antiquité tardive. Et puis, il y a une sorte de nouvelle jeunesse ou d'efflorescence qui coïncide avec la philosophie des Lumières. Bon, et c'est de là que la plupart de nos contemporains tirent leurs références philosophiques principales. Bon, alors, déjà, à l'époque des Lumières, je crois qu'il est très important de le souligner, il y a plusieurs cosmopolitismes. C'est un conflit, c'est un point d'hérésie, comme j'aime dire en utilisant une expression de Foucault. Kant est évidemment une grande figure de la pensée du cosmopolitisme, mais Herder en est une autre, et le conflit entre eux est évidemment toujours très intéressant. Alors, ce que je suis tenté de dire, c'est que le cosmopolitisme de l'époque des Lumières, et son prolongement au fond à travers toute la modernité, est une sorte d'utopie complémentaire de la domination de l'État-nation de type européen. Donc, c'est pas une façon de le dénigrer, hein, bon, c'est une façon de montrer qu'il y a au fond un rapport de complémentarité et dans une certaine mesure aussi d'idéalisation entre le concept et une certaine organisation géopolitique, géoculturelle et géoéconomique du monde. Alors évidemment, le fait que la mondialisation, pour la première fois, il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi, bon, semble créer quelque chose comme une communication générale. Généraliser des marchandises, des idées, des langages, des cultures, pourrait apparaître comme une espèce de situation idéale pour la réalisation de cette grande utopie. Et moi, je crois que c'est au contraire le moment de sa crise et
Ça ne fonde pas une citoyenneté.
Alors, dans le cosmopolitisme, littéralement, il y a évidemment l'idée d'une citoyenneté du monde. Et la question est plus que jamais d'actualité, mais les formes sous lesquelles l'âge classique l'a envisagé, et surtout l'idée que la circulation généralisée des marchandises et des valeurs constituerait une sorte de condition de réalisation quasi automatique, est une idée complètement erronée.
Alors, Étienne Balibar, vous faites intervenir aussi la notion de sécularisme. Mais alors, indépendamment des religions, que ce soit les religions des clergés ou des religions des idéologies d'État, en quoi cette notion nous aide-t-elle aussi à penser une autre forme de citoyenneté ou un rapport de la citoyenneté avec les cultures, les différentes cultures?
Alors, ce n'est pas indépendant des religions. Non, si c'était indépendant des religions, on ne voit pas pourquoi je serais allé chercher ce terme. Bon, là, je sais que j'ai une tendance à faire des détours par rapport à vos questions, mais je crois qu'il faut que je dise un mot des circonstances dans lesquelles ce texte a trouvé son origine. Bon, c'est au fond un discours, puisqu'il s'agit de la version développée d'une conférence publique que j'avais donnée à Beyrouth en 2009, qui, idéalement et même réellement, se trouve au point de rencontre de plusieurs langues et de plusieurs cultures lui-même. Bon, il a un pied en France, évidemment, dans les débats français autour de la laïcité, sur la laïcité, et sur ses différentes interprétations. C'est un point particulièrement sensible en ce moment,
oui,
comme vous savez.
La laïcité comme une des versions du sécularisme, la version française.
Oui, et là encore, c'est toujours la même idée. Je suis tenté de dire qu'il n'y a pas une laïcité, mais qu'il y a deux laïcités. Disons, pour aller vite, il y a celle de Jean Beaubéreau et celle de Penarwiz, de Catherine Kinsler. Donc il y a une laïcité qui est une espèce de religion d'État, une espèce de religion civile. Bon, elle est très en pointe en ce moment parce qu'elle sert pour une part à exprimer certains des ressentiments du nationalisme français. Et puis une laïcité que je n'hésite pas à appeler libérale. Bon, mais oui, je ne voudrais pas qu'on la confonde purement et simplement avec le multiculturalisme,
ce qui
est une tendance assez prononcée chez certains des théoriciens ou même des critiques du sécularisme à l'américaine.
Justement, Étienne Bellibert, je suis obligé d'aller vite, mais justement sur ce multiculturalisme que vous essayez de repenser, voire de dépasser, vous faites intervenir une notion pour penser la traduction entre les différents culturels. Hein. Vous prenez la notion aussi à Lyotard, les différents.
Oui.
Et vous proposez l'idée de, médiateur évanouissant des différents. Qu'est-ce que c'est qu'en quelque sorte cette médiation ou cette traduction qui permettrait de faire évanouir les différents, c'est-à-dire l'impossibilité d'employer le même langage?
Bon, alors vous savez, le médiateur évanouissant, tout le monde s'en sert aujourd'hui. Bon, c'est une très belle formule qui a été inventée par Frederick Jameson. Au fond, nous sommes plusieurs à nous en servir de façon diverse. Bon, je m'en sers à la fin du livre pour essayer de présenter. C'est le moment utopique, finalement, j'y viens bien à mon tour moi-même de ce texte, dans lequel je me pose la question de savoir quel type de discours, et plus précisément de discours philosophique, pourrait en effet servir à présenter sur une scène qui est inévitablement la scène publique, mais qui est aussi inévitablement international ou cosmopolite, le différent des discours religieux. Je prends différent au sens de Lyotard, c'est-à-dire de phrases qui ne sont pas automatiquement ou spontanément traductibles les unes.
On ne peut pas les régler comme des litiges.
Les autres, oui. C'est pourquoi je ne dirais pas qu'il s'agit de faire s'évanouir. C'est le médiateur qui est évanouissant, en ce sens qu'il disparaît dans son intervention, comme disait Althusser. Mais il ne s'agit pas de faire s'évanouir les différents. Idéalement, il s'agit au contraire de les présenter et de les penser.
Alain Badiou a écrit son siècle pour parler du 20e.
Un très beau livre.
J'ai l'impression que
que je préfère.
Oui. Vous, pour le 21e, c'est plutôt ici votre siècle. Ici, est une sorte de pronostic, non?
Ah non, je fais pas de pronostic. Si je faisais des pronostics, j'entrerais dans une apocalyptique.
Vous employez le terme malgré tout. Oui. Non, pas de prophétie, j'ai dit pronostic.
Oui, je sais bien. Oui.
En tout cas, pour le comprendre, je crois que ce livre peut nous aider. Je rappelle son titre, Seculum, culture, religion, idéologie, paru chez Galilée. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François. Des couleurs au sécularisme, c'était le Camailleux du jour. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine haute en couleurs. Demain, je recevrai Magali Besson pour parler de racisme et de couleur de peau, de Jefferson à Frantz Fanon. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.
puis rendez-vous également sur un réseau social dont la première lettre est la lettre F, où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne tous les jours l'émission du jour.